Bonjour et bienvenue dans votre émission bimensuelle Les Métiers de l'Ombre, qui parle de ces héros silencieux qui travaillent dans l'ombre. Le mercredi en semaine impair, à partir de 13h, sur Radio G 101.5 FM. Et n'oubliez pas, parce que chaque voix mérite d'être entendue. Mais alors, qui sont-ils ? Eh bien, il s'agit de ces personnes qui ont des métiers peu connus du grand public, mais dont l'activité est cruciale et indispensable à notre vie de tous les jours. Ces personnes qui exercent ces métiers travaillent souvent en coulisses, et leur contribution est pour la plupart méconnue ou sous-estimée. Derrière chaque grande marque, chaque enseigne, personnalité, entreprise ou association, se cachent de nombreux individus que l'on appelle les petites mains, sans qui le travail, la qualité ou encore l'image de ces entités seraient beaucoup moins reconnues. Alors prenons un instant pour imaginer notre quotidien sans ces métiers essentiels et rencontrons toutes les deux semaines un de ces mystérieux individus au micro de Radio G. Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir le métier de chercheur au sein de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, avec notre invité qui nous a partagé tous ces mystères qui se cachent dans les laboratoires avec ses différentes missions. Je vous invite donc à retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio G, radio-g.fr. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une héroïne du quotidien qui tapit dans l'ombre de l'aube à l'obscurité, qui parcourt nos routes pour assurer des soins vitaux pour des milliers de personnes. Je veux bien évidemment parler du métier d'infirmière libérale. Et je vous présente donc Marie-Dominique. Bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour Fabien, je vais bien, je te remercie de ton invitation.
Avec plaisir.
Tu peux m'appeler Marido, en général c'est comme ça qu'on me surnomme.
D'accord.
Donc pas de problème.
Très bien, eh bien enchanté et bienvenue Marido.
Merci.
Eh bien pour commencer, je te propose de te présenter et de nous dire d'où tu viens.
Alors, donc Marido, j'habite Saint-Léger-des-Bois, j'ai 58 ans et je suis infirmière libérale depuis 14 ans, puisqu'au préalable, j'étais infirmière au centre hospitalier du CHU d'Angers.
D'accord. Et du coup, tu as toujours vécu dans cette région ?
Alors, j'ai toujours vécu dans cette région. Je suis native du Pin-en-Mauges.
D'accord.
Qui est à 30 km d'Angers. Donc oui, j'ai fait mes études dans le secteur.
Mmh. Donc tu connais plutôt bien la région, à ce que je vois. Et j'imagine que c'est assez utile pour ton quotidien. Car aujourd'hui, nous allons parler de ton métier, infirmière libérale. Car bien qu'il soit au cœur du système de santé, les infirmières libérales sont souvent méconnues du grand public et peu mises en lumière. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien en quoi consiste ce métier, et surtout quelle est la différence avec une infirmière en hôpitaux ou clinique, peux-tu nous dire en quoi consiste le métier d'infirmière libérale de manière générale ?
Alors, l'infirmière libérale, elle va au quotidien chez les gens pour assurer des soins. Elle est en général seule, malgré qu'elle fasse partie d'un cabinet peut-être à plusieurs infirmières. Mais en général, elle travaille seule. Elle va au domicile des patients et elle assure tous les soins nécessaires pour des gens à domicile.
D'accord. Donc ça a l'air d'être un métier assez polyvalent, mais à la fois rigoureux et puis avec de la responsabilité en plus. Doté en plus de ça, le sens de l'orientation, j'ai l'impression. J'imagine en tout cas.
Alors moi, le sens de l'orientation, c'était compliqué pour moi. Donc quand j'ai commencé dans le libéral, c'était un petit peu folklorique, puisque le secteur où je travaille, c'est sur Saint-Aubin-de-Luigné, Rochefort-sur-Loire, ainsi que Béhuard. Donc c'est un secteur que je ne connaissais pas du tout.
D'accord.
J'ai mis quand même un certain temps avant de m'habituer au secteur. Alors oui, ça c'est indispensable pour pas perdre du temps sur la route.
Ouais.
Parce que le métier d'infirmière libérale, c'est des actes qu'on accumule avec un certain nombre où il faut être quand même relativement rapide. Donc le secteur géographique, il vaut mieux le connaître pour ne pas perdre du temps sur la route.
Il y a un petit côté taxi. Les taxis ont l'air de bien connaître les routes eux aussi.
On est un peu comme les taxis, effectivement. Alors après, quand on ne sait pas, on fait comme tout le monde, on utilise Waze et, et on y arrive.
Oui, c'est ça. Et donc ce métier-là, on va dire d'infirmière ou d'infirmière libérale, tu l'exerces, tu dis, depuis 14 ans, c'est ça ?
Voilà, 14 ans. Mon job principal était au CHU d'Angers où je suis restée de nombreuses années, où j'ai fait plusieurs services, mais entre autres surtout la chirurgie urologique où j'ai passé de nombreuses années, où j'ai beaucoup aimé mon métier d'infirmière dans ce service. Et puis arrivé Au bout de quelques années, il me semblait nécessaire de faire autre chose. Le métier d'infirmière, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire plein d'autres choses. On n'est pas forcément infirmière dans un hôpital ou dans une clinique. Il y a plusieurs branches et on peut faire autre chose. Et moi, j'ai toujours été attirée par le libéral. Donc, j'ai senti à un moment donné dans ma carrière que c'était nécessaire d'arrêter le CHU et d'aller voir autre chose pour se booster un peu aussi. Et puis
aller voir de nouvelles choses.
Et aller voir surtout de nouvelles choses.
Oui, c'est intéressant. Et pour arriver à ce métier, et donc avant infirmière en CHU, peux-tu nous donner ton parcours d'études pour en arriver là ?
Alors moi, j'ai un parcours qui est un peu atypique. J'ai pas fait comme tout le monde parce que j'étais pas une grosse bosseuse à l'école. Donc du coup, j'ai fait un BEP sanitaire et social. Ensuite, une fois le bac en poche, j'ai fait des études d'aide-soignante, donc concours d'aide-soignante.
D'accord.
Où j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'aide-soignante. Et là, je me suis dit, pourquoi pas le métier d'infirmière. Donc j'ai passé plusieurs concours. J'ai été admise sur Paris, où j'ai fait ma première année sur Paris.
D'accord.
Et ensuite, j'ai demandé un rapatriement sur Angers, parce qu'à ce moment-là, mon compagnon était d'Angers. Donc j'ai voulu me rapprocher. Donc à cette période-là, c'était autorisé. Donc j'ai fini mes 2 années restantes à l'IFSI d'Angers.
D'accord. Et c'est un parcours classique, ça, non ? Tu avais l'air de dire que c'est atypique.
Non, c'est un parcours un peu plus long. En règle générale, après le bac, une fois le bac en poche, on peut tenter les concours d'infirmières diverses. Il y a pas que l'IFSI d'Angers. Et en général, alors moi, à mon époque, c'était 3 ans et demi d'études. Je crois que maintenant, c'est resté à 3 ans.
Ok, d'accord. Et on est obligé de passer par la case Paris ou pas ?
Pas du tout.
Non.
On fait tous les concours que l'on peut faire, mais on peut faire dans le secteur choisi que l'on veut.
En province, peu importe où.
Ah, peu importe, peu
d'accord.
importe.
Très bien. Et est-ce que, donc, du coup, suite à ça, donc, infirmière au CHU, c'est ça, d'Angers ?
Oui.
Et comment ça s'est passé ? En quoi ça consistait ce métier au quotidien ?
Alors là, c'est la grande maison du CHU. Vous êtes dans un service avec un travail d'équipe. C'est ce qui différencie surtout du métier d'infirmière libérale, puisque là, vous êtes avec des médecins, des internes, toute une équipe aide-soignante, également ASH. Et le métier dans un service au CHU, c'est travailler en binôme. Souvent, moi, je travaille avec une aide-soignante et en collaboration non-stop avec les médecins et les internes.
D'accord. Et tu vois aujourd'hui une différence dans ton quotidien entre ce métier au CHU et métier en libéral ?
Oui. Moi, là où ma grosse difficulté a été quand j'ai fait du libéral et où il a fallu un temps d'adaptation, c'est que j'ai passé plus de 20 ans au CHU d'Angers avec une équipe. Et quand je suis arrivée dans le libéral, ma journée, eh bien, je débutais le matin, ma tournée du soir, mais toute seule. Donc, j'avoue que le collectif, les collègues m'ont beaucoup manqué au point de départ. Voilà, alors, je me suis trouvée un petit peu toute seule. Heureusement que voilà, mes collègues du cabinet infirmier étaient là, mais au début, ça a été un petit peu dur. Il faut quitter vraiment une ambiance collective pour se retrouver un petit peu toute seule.
C'est ça, oui. Il faut pouvoir travailler seul et savoir travailler seul. Et ça doit pas être évident, effectivement.
Voilà, tout à fait.
Tu saurais nous dire donc les qualités ou du moins les compétences nécessaires pour être une bonne infirmière libérale ?
Alors, il faut être dégourdi. Il faut avoir le sens des responsabilités. Il faut avoir une bonne forme physique. Donc voilà, un sens de la rigueur, être méthodologique aussi, et avoir beaucoup d'empathie, être à l'écoute, ça c'est important aussi, et puis savoir aussi gérer des situations compliquées. C'est pas comme à l'hôpital on peut se référer à un médecin ou à un interne,
oui.
ou même à une collègue qui est à côté de vous. En libéral, il y a personne, donc
c'est
dans
ça.
Des situations d'urgence, il faut être dégourdi.
Ah oui, j'imagine. En tout cas, merci pour ces précisions. Marido, je te propose direct de faire une petite pause musicale. Et j'aime bien intercaler les interviews de mes invités avec des musiques qu'ils écoutent au quotidien ou en allant au travail, par exemple. Et toi, si je te demandais une musique que tu aimes bien écouter quand tu es sur la route, par exemple ?
Alors, quand je démarre ma journée, j'aime bien écouter Clara Luciani, Respire Encore, parce que du coup, ça me donne un petit coup de peps. Voilà, donc Clara Luciani, en général, j'aime beaucoup.
Ok, eh bien, écoutons tout de suite Clara Luciani, Respire Encore.
Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure au sentier.
gracier. Elle veut pas s'asseoir, elle veut s'oublier. Elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse tourner. Elle veut pas s'asseoir, ça a trop duré. L'immobilité forcée, ce soir elle veut voir recommencer. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire.
Écoutez l'émission des métiers de l'ombre sur Radio G 101.5 FM et aujourd'hui je suis avec Marido, infirmière libérale. Pour continuer notre entretien, j'aimerais savoir comment se structure un cabinet d'infirmière libérale, car bien que tu sois indépendante, tu n'es pas seule du coup au fond.
Non, alors moi je vais parler de mon expérience propre. Donc moi je suis avec deux autres infirmières. Quand je suis arrivée en libéral, le cabinet était déjà monté entre guillemets par une de mes collègues. Moi j'ai commencé à faire tout d'abord des remplacements. Après j'ai été collaboratrice pendant 2 ans. Mmh. Et ensuite je me suis intégrée à l'équipe en rachetant ma patientèle.
Ah d'accord.
Voilà, donc nous sommes 3 infirmières. En étant 2 infirmières le matin, mmh. Nous avons chacune nos secteurs et on alterne. Moi, je travaille soit une matinée ou soit une journée continue. Et on a un planning sur 3 semaines et ça tourne. On fait 1 week-end sur 3. Le week-end où on est toute seule, eh bien, c'est-à-dire qu'on va faire à peu près le même nombre de maisons, mais en étant toute seule. Donc, ça veut dire que le samedi et le dimanche, il ne faut pas avoir les 2 pieds dans le même sabot.
Ah oui, oui, j'entends bien. Mais comment ça se structure? Parce que vous devez vous mettre raccord, toutes les 3, du coup.
Ça, c'est-à-dire que chacune de notre tour, on va élaborer la tournée avec tous les patients du matin, tous les actes que l'on doit faire, avec la tournée du soir également. Et ça tourne au fur et à mesure. Ce n'est pas toujours la même infirmière qui fait les transmissions également, parce que les transmissions, c'est primordial. Mm-hmm. C'est-à-dire que celle qui fait le week-end doit assurer des transmissions précises pour les collègues du lundi qui n'auront pas travaillé le week-end et qui auront besoin de connaître ce qu'elles auront à faire dès le lundi matin avec quelquefois de nouvelles prises en charge durant le week-end.
Ouais, je comprends, c'est la partie administrative, mais on va en revenir un petit peu après dans le déroulé d'une journée. Donc là, on a vu la structure, on voit comment vous fonctionnez entre vous. Mais ça débute par quoi ? Un appel d'un patient qui dit « j'ai besoin d'une infirmière à domicile » ou d'un médecin ou qu'est-ce qui déclenche l'intervention d'une infirmière libérale à domicile ?
Alors en général, ce sont les patients qui nous appellent. Donc ça peut être pour des gestes très simples, besoin d'une prise de sang à domicile. Et puis après, c'est pareil, c'est des patients qui vont nous appeler, qui ont été opérés, donc on assure du post-opératoire. Mmh. Voilà, et puis quelquefois on est en direct avec nos médecins qui ont besoin d'un geste bien précis,
oui, c'est ça.
D'un test Covid, d'une prise de sang en urgence. On est en contact avec eux en permanence.
Oui, parce que c'est ça la question que je me pose, c'est comment vous savez faire les soins adéquats, quels médicaments donner éventuellement à tel patient. J'imagine que vous suivez des ordonnances.
Alors, tout acte d'infirmière est bien évidemment en rapport avec une prescription médicale. Le post-opératoire, c'est le chirurgien qui va laisser au patient à sa sortie des prescriptions pour l'infirmière qui sont très claires, très précises. Donc on sait ce que l'on doit faire. Et vice-versa, avec nos médecins généralistes, c'est la même chose. Pour les médicaments, on a une ordonnance avec une prescription qui est très claire, très précise et on suit les consignes.
Oui, c'est ça. Comme un petit meuble à monter, on a la notice
exactement.
Et il faut faire exactement ce qu'on nous dit de faire.
Tout à fait.
Très bien. Et est-ce qu'il y a une moyenne d'âge en général des patients ou c'est...
Alors nous, sur le cabinet de là où je travaille, c'est assez éclectique, c'est-à-dire que j'ai des personnes âgées, mais je peux avoir aussi des adultes, des ados, on a même des soins pour des enfants, enfin c'est très très varié. C'est ce
vrai.
Qui fait le gros avantage du libéral.
Mmh.
On ne s'ennuie jamais, il n'y a jamais une journée qui est identique.
Oui, vous savez par le biais des transmissions quel patient vous allez avoir, mais en fonction des coups de fil aussi que vous allez recevoir, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles personnes avec les nouveaux soins adaptés.
Voilà, tout à fait.
Pour moi, je trouve que c'est un côté un peu un service assez privilégié et même voire personnalisé, parce qu'on rentre dans l'intimité des gens chez eux. Comment cela est facturé et vous, comment vous y retrouvez, comment vous êtes rémunéré?
Alors, deux choses différentes. Oui, quand on rentre au domicile du patient, on n'a plus la blouse blanche que l'on peut avoir quand on est dans une structure clinique ou centre hospitalier. Donc là, c'est complètement différent. Moi, quand j'ai débuté le domicile, je me suis mise à la portée des gens et non pas à l'inverse.
Mmh.
Donc, c'est hyper important. Il faut respecter les habitudes des gens. Connaître leur petite façon de faire,
leurs habitudes,
petites habitudes, c'est hyper important. Donc, il faut vraiment s'adapter et se mettre à la merci des personnes que l'on va rencontrer.
Mmh.
Et puis après, les actes que l'on effectue, elles sont tarifées par une nomenclature qui est une certaine bible pour l'infirmière libérale et
D'accord.
qui est un peu indigeste quand on commence. voilà, parce que ce sont des actes précis que l'on doit aussi, autant que la prescription médicale, respecter,
oui.
avec des tarifs qui sont déjà établis.
Oui, bien sûr, je comprends. Et les soins sont remboursés par la CPAM, la Sécurité sociale.
Exactement, alors vous avez des soins avec des prises en charge à 100%. Après, on peut effectuer aussi du tiers payant pour des personnes.
Mmh.
Voilà, et puis il y a d'autres personnes qui sont à la CMU. Donc là, c'est effectivement la CPAM et la Mutuelle qui prennent les actes en charge.
D'accord. Alors maintenant, nous connaissons ton parcours, la définition de ton métier et la structure dans laquelle tu es. J'aimerais savoir comment se déroule une journée d'une infirmière libérale. On vous voit quasiment jamais en fait. Mais pourtant, vous êtes bien là. Mais on entend, oui, l'infirmière est passée, mais on vous a pas vu. Je parle quand on a des proches qui ont des soins. Donc il y a un côté mystérieux. Donc c'est pour ça que j'aimerais savoir comment se déroule une journée d'une infirmière libérale.
Alors, une journée type d'une infirmière libérale. Donc moi, quand je commence le matin, en général, je commence assez tôt. Donc ça peut être dès 6h30 le matin.
Ah oui.
Donc ça dépend des actes que l'on va avoir à effectuer. Mais vous avez des gens qui ont besoin d'aller travailler de bonne heure eux aussi et qui ont besoin d'une prise de sang avant. Donc ça peut démarrer à 6h30 le matin.
Mmh.
Ensuite, on va effectuer la distribution des médicaments. D'accord. Pour les personnes âgées. Ensuite, ça peut être tout ce qui est injection. Voilà, des heures assez précises.
Ah oui.
Et puis on découle souvent des pansements, tout type varié, avec des pansements plus longs, des pansements plus courts.
Donc ça, c'est le matin.
Ça, c'est le matin. Et puis après, en général, pour la tournée du soir, moi, en règle générale, je repars aux alentours de 17h en fonction des tournées plus ou moins à rallonge.
Ah oui, il y a deux tournées, en fait. Il y a une...
En général, le matin, on peut terminer vers midi et demi, 13h. Il y a une coupure. Donc moi, je rentre à la maison déjeuner et je me pose. Pendant ce laps de temps, il y a la ligne téléphonique à assurer avec tous les appels.
C'est vrai.
La tournée du lendemain à préparer pour les collègues. Donc, il y a tout ce qui est téléphone à assurer, tout ce qui est facturation à tracer, ordonnances terminées qui n'ont pas été revalidées. Donc là, on appelle les cabinets pour réajuster les ordonnances. L'après-midi passe très vite aussi et c'est de la bureaucratie.
D'accord. C'est un travail titanesque.
Bah, c'est-à-dire que on n'arrête jamais finalement.
Oui, oui, je vois ça.
Et l'après-midi, on repart pour la tournée du soir, qui est un petit peu moins longue que celle du matin, en fonction des cabinets et de la prise en charge des patients. Mmh. Moi, en règle générale, j'ai beaucoup de distribution de médicaments pour des personnes qui ont des troubles cognitifs.
D'accord.
Donc, c'est important de leur donner. Et puis, on a aussi quelquefois des injections le soir.
Et une fois que tu rentres chez toi, le travail n'est pas terminé non plus. Tu parlais de transmission tout à l'heure.
Oui, non, c'est pas terminé, puisque là, il faut bien transmettre à sa collègue du matin avec qui on va travailler ce qui s'est passé dans la tournée du soir, si on a eu des imprévus, des hospitalisations qui ont été faites en urgence. Il faut avoir une traçabilité de sa patientèle. Il faut que la collègue du matin elle soit au courant de tout, de manière à ce qu'elle soit au clair, elle aussi, quand elle va démarrer sa prise en charge de ses patients le lendemain.
Ça paraît logique.
C'est un travail d'équipe et il faut savoir aussi...
Travailler dans ce sens.
Voilà, tout à fait.
Mmh. En plus de toute cette charge de travail, il y a aussi cette charge mentale et émotionnelle que tu dois ramener à la maison en fonction des patients plus ou moins difficiles. Et du coup, toi, comment tu gères ça quand tu arrives chez toi?
Alors au début, quand on est jeune, et moi c'était mon cas à l'hôpital, je ne gérais pas, ou alors on franchit facilement une ligne rouge et on ne met pas assez de distance. Avec l'expérience, c'est complètement différent. Moi, j'ai appris. Voilà, j'essaye de respecter une certaine distance avec ma patientèle. C'est plus facile avec certains patients que d'autres en fonction des pathologies plus ou moins lourdes. Il y a des fois on y arrive et il y a des fois on n'y arrive pas. Et puis ça dépend aussi comment on se sent. Il y a des fois où on est un peu plus fatigué.
Oui.
Donc je pense qu'on ressent un peu plus les choses. Et c'est d'autant plus difficile, mais il faut savoir
faire la part des choses entre
la maison
et le
travail. Exactement. Moi, je sais le faire maintenant puisque j'arrive au bout de 33 ans d'années d'expérience. C'est plus facile pour moi. Mmh. Et en général, comme j'ai un petit peu de distance en voiture à faire pour rentrer à mon domicile, c'est mon sas de décompression.
Oui.
Et je sais le faire à ce moment-là. Et quand je rentre à la maison, je repars sur autre chose et entre guillemets, le cabinet est fermé et ça se passe très bien comme ça.
Ouais, mais c'est vrai que c'est dans beaucoup de métiers, ce sas de décompression, comme tu dis, il est vraiment utile, que ça soit dans les transports en commun ou même en voiture. C'est quelque chose qui permet, je pense, au quotidien de se recentrer sur sa vie personnelle et ça, c'est toujours bien. Marido, je te propose une seconde petite pause pour respirer un petit peu, une petite pause musicale avec un morceau que tu apprécies tout particulièrement.
Alors, le titre que j'aime bien quand je rentre à la maison en mode détente dans mon sas de compression dans ma voiture, j'aime beaucoup Adèle, et un titre plus spécifique qui est Easy on Me.
Très bon choix, écoutons ça tout de suite.
There ain't no gold in this river. I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. God,
nous écoutez sur Radio G 101.5 FM, c'est l'émission Les Métiers de l'Ombre. Vous êtes toujours dans l'émission Les Métiers de l'Ombre sur Radio G et continuons notre interview de notre invité. Après ces années dans le milieu médical, au contact de tes patients, comme une parenthèse hein, de leur quotidien, comme tu as su le dire, à parcourir les routes pour leur assurer les soins nécessaires, que penses-tu de ton parcours aujourd'hui? Est-ce que tu referais la même chose? Ton métier, c'est un métier passion, tu pourrais dire ça?
Oui, c'est un métier passion, ça c'est certain. Si on n'est pas passionné par son travail, on reste pas dans la durée. On reste pas dans la durée. Moi, je suis contente d'avoir commencé à travailler au CHU d'Angers, parce que c'est une grande ville, entre guillemets, mais où j'ai appris beaucoup de choses, où j'ai pu arriver après en libéral avec une aisance dans mon métier, avec un bagage. Je pense que c'est indispensable. De toute façon, on ne peut pas être infirmière libérale comme ça en sortant de l'école. C'est pas autorisé. Il faut avoir un certain nombre d'heures de soins avant de commencer dans le libéral. Et ça, c'est indispensable. Mais c'est passionnant parce qu'il y a une diversité dans le travail.
Oui.
Moi, ça, j'aime beaucoup. Et puis, c'est surtout la rencontre des personnes. Et ça, vraiment, c'est hyper épanouissant.
Et est-ce que si parmi nos auditeurs, il y a des infirmiers ou infirmières libérales qui nous écoutent, est-ce qu'ils pourraient éventuellement postuler à ton cabinet?
Alors, aucun problème. Ils seront les bienvenus. Le cabinet se trouve aux 5 places Sainte-Croix à Rochefort-sur-Loire. Tous ceux qui voudront faire une journée découverte, on recrute pour faire des remplacements sans aucun problème, vous êtes les bienvenus.
Marido, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. J'espère que nos auditeurs auront un regard différent sur ce métier de l'ombre qu'est infirmière libérale. Bonne continuation à toi et à très bientôt.
Merci Fabien. Bon, moi j'espère que j'ai été à peu près claire dans mon propos.
C'était parfait. Merci beaucoup.
Merci à toi Fabien.
Merci. En attendant, nous on se retrouve dans 2 semaines pour découvrir un tout autre métier de l'ombre. Il s'agira d'un métier dont on a peu entendu parler et dont on ne soupçonne même pas l'existence, mais qui est pourtant indispensable. À dans 2 semaines, bye.
Radio G.